des questions, des clarifications, des commentaires par rapport à ce que vous avez entendu par Mathieu, Béatrice et Reza. Je ne sais pas si vous avez des questions, des particularités. Oui, allez-y.
Moi, c'est pour Madame Béatrice. Oui. Vous avez parlé tantôt de rapport à la politique qui était très différent. Je me demandais juste si vous expliquiez c'était quoi la différence.
Le rapport, pardon, j'ai pas
à l'autorité.
À l'autorité, ok. Le rapport à l'autorité, c'est que l'enseignant, souvent dans les pays d'Asie du Sud ou dans des camps de réfugiés, est l'autorité suprême qu'il ne faut pas, qu'on ne peut pas contester. L'aspect du standard qu'on avait peut-être, que disons les élèves du secondaire ont beaucoup travaillé pour que ça change, quoi, que ils n'ont pas, donc en fait un enseignant du secondaire s'excuse une fois dans une entrevue, un enseignant du secondaire disait oh, je devais lui dire quelque chose, elle l'a accepté, j'étais tout étonnée, je dis oui mais c'est normal, elle l'accepte parce que c'est toi enseignant qui le dis. Et en fait, il était comme surpris parce qu'il n'a pas l'impression que sa parole a autant de portée pour un autre élève québécois. Donc c'est vraiment, le professeur est encore une figure d'autorité. Il y a aussi d'autres pratiques qui m'ont été nommées par des personnes qui sont des méthodes pédagogiques qu'on n'utilise plus, style des punitions qui peuvent être parfois corporelles dans des pays et pas juste l'Asie du Sud et qui ne sont plus du tout ici de mise. Donc l'aspect des autres conséquences, c'est aussi quelque chose de nouveau pour un élève sud-asiatique qu'il apprécie fortement, mais qui lui demande aussi une adaptation. Donc c'est un peu ces deux-là qui me viendraient quand même. Est-ce que ça répond à votre question?
Si je peux me permettre, une petite anecdote. J'ai passé un mois en collaboration pour une recherche avec 10 étudiants de doctorat montréalais et 10 étudiants de doctorat d'Allahabad, dans l'Uttar Pradesh, avec leur professeur. Mais on habitait sous la tente et tous les matins, les étudiants, à tour de rôle, amenaient les souliers du professeur tout vernis à sa tente. Alors, c'est
pas à toi.
Non, pas à moi. Et les étudiants ne faisaient pas ça.
Vous avez d'autres commentaires, d'autres questions? Je pense que c'est intéressant de voir la façon dont l'immigration, dans certains cas, va changer drastiquement certains comportements et dans d'autres cas, va garder et compliquer dans les deux sens. Hein, cette bidirectionnalité est très évidente quand on parle. Mais je pense qu'au Québec, particulièrement à cause de la langue française.
Moi, j'aurais peut-être un commentaire pour souligner justement la vitalité de la communauté ismaélite au Québec, au Canada, et probablement dans l'ensemble des lieux où elle est établie, parce qu'elle développe vraiment des structures pour faciliter non seulement l'accueil, l'intégration, mais également la participation civique, exactement. Et c'est des modèles ici qui sont, je pense, à imiter.
Merci M. Bauer. En fait, c'est toujours un défi, mais on essaie de notre mieux pour depuis longtemps, en fait, hein, où les communautés ismaélites sont établies. Et on essaie.
Et il y a plusieurs lieux de culte, de communautés nouvellement arrivées, qui tentent, c'est pas aussi dynamique, mais qui offrent des services semblables aussi. Qu'on pense à des mosquées, à des temples hindous, des gurudwaras, permettre à des nouveaux arrivants de se familiariser avec la société d'accueil et de leur donner des pistes pour qu'ils puissent savoir vers où, tout au moins, s'adresser pour aller chercher selon qu'elles ont besoin.
Merci. Peut-être on attend pour une dernière petite question. Peut-être que je vais en profiter pour attirer l'attention que j'ai quelques étudiants qui sont présents, Mathieu, ici, de l'Université de Montréal. Donc, peut-être qu'ils vont pouvoir poser une question.
Mais moi, ça m'a étonné personnellement de voir un peu, c'est un côté vraiment, vraiment excellent, la difficulté, je trouve, qu'on amène avec les étudiants qui arrivent d'ici, en exemple de l'Inde, pour prendre ce 5, qui, leur, j'imagine, leur seconde, leur langue tertiaire, enfin, bref, la langue qui est le point le plus familier, ça va être l'anglais. Puis il se retrouve ici à devoir apprendre le français. Je pense que c'est un, vous l'avez démontré, c'est un gros défi, son permis. Ça m'a, c'est pas personnellement choqué à voir comment ça va être difficile pour un jeune de peut-être 15 ans, qui va faire un an ou deux ans au secondaire dans un milieu complètement différent, puis après ça, peut-être se retrouver une vie professionnelle. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de services dans un milieu ici pour ça.
C'est sûr que c'est un gros défi, mais c'est les personnes aussi qui peuvent donner de l'énergie pour ce défi-là. C'est sûr que parfois, malgré tout, ça peut être un motif de décrochage. On l'observe, qu'il y a des décrochages qui peuvent être dus au fait qu'ils se sentent pas la montagne est trop élevée, hein, d'apprendre le français. Mais il reste que des informations qu'on peut avoir, il reste que la plupart des personnes se rendent compte que s'ils veulent rester au Québec, ils doivent parler français. Donc, même les personnes qui sont allées vers le système anglophone continuent à pratiquer le français parce que c'est vrai qu'il y a certains secteurs dans Montréal même qui peuvent vivre juste en anglais, mais il reste que c'est quand même limité dans le Québec. Donc le défi est important et souvent parfois ignoré quand on arrive ici, mais reste, après un peu plus de recul que les premières années où c'est difficile, reste important à relever.
D'ailleurs, je pense que Mathieu peut certainement nous donner une conclusion sur le fait que, avant la conclusion de Mathieu, je vais prendre votre question, mais je voulais juste dire que le français, je crois, est intéressant à considérer au Québec. Et le fait d'avoir une semaine de l'Inde au Québec, d'avoir un centre d'études et de recherche à l'UQAM, d'en avoir un à Montréal, de pouvoir unir un petit peu nos forces de langue française à encourager les partenariats indo-québécois, je crois, sont très importants. Puis l'exemple d'aujourd'hui, je pense, ne fait que renforcer l'importance de la langue française et l'état de Pondichéry, qui finalement existe encore, peut-être père de sa spécialité française, mais peut-être Mathieu pourra en dire plus. Mais Madame, j'en prie.
Oui, une question pour Monsieur Boivin. Qu'est-ce qui attire, à part les ressortissants de Pondichéry, qu'est-ce qui attire l'immigration indienne au Québec, alors que le français est la langue officielle?
Il y a différents types d'immigration, comme le soulignait Béatrice. Les réfugiés ne choisissent pas exactement, ne choisissent pas l'endroit où ils vont être relocalisés. Et pour plusieurs d'entre eux, c'est une surprise en arrivant au Québec que c'est en français qu'il y a un fait francophone ici. Parce que dans les cours qui sont offerts par l'IOM, l'Organisation internationale pour la migration, qui doivent former les gens à la culture dans laquelle ils vont se retrouver, ne mettent pas l'emphase qu'il y a deux langues nationales au Canada. Dans les manuels qu'on a observés là, dans des camps de réfugiés. Il y a aussi des réunions familiales. Alors, il y a des Indiens qui sont déjà établis ici et des gens de leur famille qui viennent les rejoindre. Mais mis à part ceci, je dirais que c'est peut-être des opportunités d'affaires. Alors, on fait référence à une classe bien particulière. Je ne sais pas si Bilkis, Béatrice ou Réza, vous pourriez...
La française, je crois, pour les enfants,
oui, notamment. C'est sûr que par rapport à notre expérience avec la communauté ismaïlie, c'est sûr que je pense qu'une chose importante, c'est les valeurs québécoises sont importantes pour le fait de choisir un pays. Pour venir immigrer. Et je sais que pour les dernières vagues d'immigration pour la communauté ismaïlie, c'était quelque chose qui était recherché. Les valeurs de pluralisme, de démocratie. Bien sûr, la langue peut toujours être un défi, mais dès le départ, la langue est prise en compte et est apprise dans plusieurs centres dans les pays d'origine. Et le français est en fait bien intégré dès le départ, du mieux possible. Et ça devient moins un défi qu'on le pense finalement. Mais c'est sûr que les valeurs de la société québécoise sont pour nous le premier, le premier atout et la première raison pour laquelle cette immigration se fait ici au Québec, dans notre cas.
Peut-être si je pourrais conclure là-dessus, c'est justement l'un des éléments qui, je crois, si tu permets, mais qu'est-ce qui te motive, qui me motive dans nos initiatives de tisser des ponts entre le Québec et l'Inde, c'est de faire connaître justement les valeurs, les façons de faire du Québec, mais aussi réciproquement de faire connaître les façons de faire indiennes qui peuvent nous apporter ici au Québec. Alors, c'est de tisser des ponts au niveau culturel, au niveau de la culture académique, de la culture médicale, des sciences infirmières, mais également d'un savoir-faire. Il y a des savoir-faire différents selon les cultures, et il peut y avoir une pollinisation qui peut porter fruit, justement. Et je me permettrai de faire un lien avec un autre panel qui est en lien avec celui d'aujourd'hui, qui va avoir lieu jeudi matin à 9h30, un peu tôt, mais qui va porter plus précisément sur des communautés ethno-religieuses particulières ici à Montréal, un panel auquel va participer Béatrice, mais également Anouk Carcignol et Marc Bradley. Et il y a plusieurs autres panels, je vous inviterai là, en sortant à prendre, si ce n'est pas déjà fait, l'horaire complet là, de la semaine sur l'année.
Alors, j'en profite pour remercier les panélistes. Merci beaucoup pour votre invitation et surtout merci à l'audience. Tout à l'heure, il pleuvait des petits grelons quand Mathieu parlait et maintenant, quand Mathieu parle, le ciel est bleu. Tout est parfait. Ben, merci beaucoup encore et puis bravo encore pour la semaine en Inde, de l'Inde au Québec. Au revoir.